Vous écoutez RTL.
7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Mathias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur.
Bonjour Mathias Fekl.
Bonjour Olivier Mazerolle.
Vous êtes évidemment très heureux de la conclusion de ce contrat. 34 milliards d'euros, 12 sous-marins nucléaires à livrer à l'Australie, mais une partie de ces bateaux va être construite en Australie. Qu'est-ce qui va nous rester à nous ?
Beaucoup de choses. C'est une excellente nouvelle et il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé là-dessus, les ingénieurs français, les ouvriers qui travailleront sur ces chantiers, l'excellence française qui, dans cette matière, comme dans beaucoup d'autres, exporte. C'est vrai dans ce domaine-là, c'est vrai dans l'aéronautique, c'est vrai dans le luxe, dans l'agriculture, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la chimie, dans beaucoup de domaines, il y a cette excellence-là, et dans un contexte où notre commerce extérieur ne va pas très bien, ce sont de bonnes nouvelles. Comme est une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de PME qui se lancent à l'export.
Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on voit les gros groupes qui effectivement fonctionnent bien, mais les PME, on est encore un peu à la traîne par rapport à l'Allemagne, par exemple, un pays que vous connaissez bien, hein, puisque vous êtes à la fois français-allemand avec vos parents, mère française, je crois, et père allemand. Pourquoi on n'y arrive
pas? C'est le couple franco-allemand.
Pourquoi on n'y arrive pas en France?
Non, alors moi j'ai mis en place une feuille de route spécifique sur les PME et dans toutes mes délégations il y a des PME. J'invite d'ailleurs toutes les PME qui le souhaitent à faire des déplacements avec moi. Il y a un enjeu fort là-dessus. On a un retard par rapport à l'Allemagne, par rapport aussi à l'Italie. Ce qui manque en France beaucoup, c'est l'échelon des entreprises de taille intermédiaire qui sont robustes, innovantes, conquérantes à l'export. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus en interne du côté du ministère de l'économie avec beaucoup de volontarisme. Et puis à la projection à l'international. Pour la première fois ces dernières années, le nombre d'entreprises exportatrices a à nouveau augmenté. Entre 2014 et 2015, on est passé de 121 000 à 125 000 entreprises qui exportent. Ça, ce sont concrètement de bonnes nouvelles parce que c'est sur le terrain, dans les régions, des PME qui créent de l'emploi et qui se lancent à l'international.
Ce sont de bonnes nouvelles, c'est vrai. Il n'empêche qu'en 2015, le déficit de la balance commerciale pour les produits manufacturés était un peu plus important qu'en 2014. Est-ce que vous espérez le réduire cette année?
Il y a une réduction continue de la balance du commerce extérieur, enfin du déficit. Depuis 2011, on était à plus de 70 milliards d'euros
de
déficit.
Le prix du pétrole joue pour beaucoup.
Bien sûr, et le cours de l'euro. Mais 20% environ du redressement viennent des efforts de redressement, de compétitivité, des réformes qui ont été menées là-dessus et du travail des entreprises. Donc ce sont structurellement des choses importantes. Et puis il faut ajouter à cela la balance des services sur laquelle la France est largement excédentaire. Et quand vous équilibrez le tout, il y a un indicateur qui est globalement à l'équilibre. Donc il faut regarder les aspects-là. Il y a des secteurs dans lesquels on est excellent et puis d'autres où c'est plus dur, sur lesquels il faut bien sûr travailler. Mais encore une fois, quand le déficit est à plus de 40 milliards, rien ne permet de fanfaronner, mais les tendances sont de bonnes tendances. Encore une fois, avec le nombre d'entreprises qui se lancent à l'export, des secteurs d'excellence qui sont réputés dans le monde entier et qui sont conquérants dans le monde entier.
Donc la France peut exister. Reprise des négociations sur le traité commercial Europe-États-Unis à New York. Il n'y a aucune chance finalement qu'il soit signé avant la fin de la présidence Obama à la fin de l'année?
Non, je ne pense pas. Et on s'éloigne d'ailleurs des chances ou des risques, chacun jugera, de conclusions tout court. Ça fait 18 mois que je travaille là-dessus, un peu plus depuis ma nomination. J'ai élaboré la stratégie française sur ce sujet et nous avons posé au titre de notre pays des actes très clairs, à la fois sur les principes. Il faut intégrer l'environnement, ça n'a pas de sens de négocier la COP21 en décembre et derrière de signer des accords qui viendraient annuler cela. Il faut faire de la transparence qui a progressé, les parlementaires ont accès aux documents, la transparence est encore largement insuffisante. Il faut respecter la démocratie, les choix, interdire des attaques devant des tribunaux privés de grands groupes qui viennent remettre en cause des politiques
publiques. Mais là
vous nous
dites pratiquement on n'en veut pas de cet accord.
Non, on a posé des critères et j'ai encore en fin de semaine dernière avec mon homologue allemand et nous travaillons là-dessus avec Sigmar Gabriel aussi, poser des critères très stricts sur ce que je viens de dire, sur la défense de l'agriculture, les indications géographiques. Donc il y a des exigences. Nous, ce qu'on souhaite, c'est un bon accord, pardon de dénoncer une évidence, mais on ne veut pas signer à tout prix. Il n'y a pas de frénésie, ni française, ni européenne d'ailleurs, à signer à n'importe quel prix, n'importe quoi.
Est-ce que quand même vous n'êtes pas excessif dans le scepticisme? Après tout, les négociations sont en cours. Et est-ce que finalement on ne joue pas avec le feu? Parce que les Américains, si l'Europe ne veut pas d'eux, ils vont s'entendre avec les pays du Pacifique, les pays asiatiques, ils ont d'ailleurs commencé, avec la Chine, ils vont pouvoir peut-être se mettre d'accord pour régenter le commerce international en fixant des normes communes et nous, on va rester gros gens comme devant, isolés dans notre coin.
L'argument théorique de dire il vaut mieux fixer des normes avec les Américains, des standards de sécurité élevés, et ensuite les imposer ou les étendre au reste du monde est valable. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les négociations. Et par ailleurs, moi je ne vois pas l'Europe comme devant suivre le rythme des États-Unis. Le premier ensemble économique au monde, c'est l'Europe. Le premier ensemble qui pèse dans le commerce international par sa valeur, par son poids, c'est l'Europe. Et donc l'Europe doit se faire entendre en tant que telle. C'est la stratégie française dans cette matière, c'est d'autres pays ont le même état d'esprit. Il n'y a aucune raison de se mettre à la remorque de tel ou tel continent ou tel pays, fût-il un partenaire et un allié.
Mais au départ, François Hollande était plutôt favorable à cet accord. Maintenant, il est plutôt contre parce que la présidentielle arrive et que c'est une bonne occasion de se réconcilier avec la partie de la gauche qui est contre le libre-échangisme.
Non, au début des négociations, le président a indiqué un volontarisme, c'est ce qui se passe dans toute négociation. Et moi, ça fait plus d'un an et demi que je travaille là-dessus. Les critères et les exigences de la France n'ont jamais varié. Elles ont toujours été validées par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères, hier Laurent Fabius, aujourd'hui Jean-Marc Ayrault. Et la position de la France n'a pas varié, elle ne variera pas dans les mois à venir.
Alors, vous avez sans doute vu la série de Canal+, Baron Noir, qui est souvent plus vrai que nature. Dans cette série, le conseiller joué par Kad Merah dit carrément au président de se refaire la cerise sur le dos de l'Europe et de la mondialisation. Vous êtes le Kad Merah d'en vrai ?
Non. Encore une fois, il y a une grande cohérence là-dessus. Moi, je suis profondément européen.
C'est pas une façon de dire, votre façon à vous de dire, eh oh, la gauche.
Non. Mais encore une fois, d'abord, il y a des choses de gauche là-dedans. Évidemment, je suis un homme de gauche, je vais pas vous dire que je fais des choses de droite. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que la France est dans son rôle lorsqu'elle tient bon dans les négociations. C'est quand même incroyable qu'on puisse être surpris que la France défende des valeurs, des principes et des intérêts dans une négociation majeure pour l'avenir qui est présentée comme telle par tout le monde.
Vous dites, on est en accord avec l'Allemagne, peut-être une partie de l'Allemagne. Avec les socialistes allemands, il y a toujours de belles paroles, puis au moment de passer aux actes, ils sont absents d'ailleurs. Hein, on a vu ça au début de la présidence de François Hollande. En revanche, Angela Merkel, elle veut cet accord. C'est un désaccord de plus entre la France et elle sur donc, ce traité, sur les migrants, sur l'euro. On a encore quelque chose à dire avec les Allemands ?
Moi, je travaille depuis le début avec les Allemands là-dessus, avec Sigmar Gabriel et avec mon homologue, Matthias d'ailleurs, homonyme aussi, Matthias Machnig. Et nous avons en permanence travaillé avec le gouvernement allemand. La chancelière n'est sans doute pas tout à fait du même avis. C'est pas la chancelière.
Elle compte quand même,
Mais évidemment, mais c'est pas la chancelière qui fait la position française sur un sujet comme ça. C'est le gouvernement de la France, le président, tous ceux qui travaillent là-dessus.
Au début du quinquennat de François Hollande, on l'a vu, il s'est couché lorsqu'il voulait renégocier le paquet budgétaire.
Je sais que ça a été. Sans François Hollande, la Grèce ne serait plus aujourd'hui dans la zone euro. C'est ce que souhaitait l'Allemagne, en particulier le ministre des Finances, M. Schäuble, qui était extrêmement dur là-dessus. Donc on peut reprendre beaucoup de choses et regarder les interprétations en France, lire la presse ailleurs en Europe qui dit bien d'autres choses, bien souvent, sur l'action du président.
Merci, Matthias Fekel.
Merci à vous.